Isabelle Fontaine, bonjour.
Bon matin.
On demeure dans le municipal, mais sur autre sphère.
Celle qui a occupé tout notre week-end.
Eh oui, et qui occupera une bonne partie de la semaine,
je te le confirme. Absolument.
Samedi, dans la tribune, il y a des détails sur le budget qui va être déposé ce soir, qui sont sortis. On parle d'une hausse de taxes de 3 %. Samuel Maire en Beaujoil décide d'écrire un courriel aux autres conseillers, puis personne ne doit parler. Il nous manque un copie conforme, pas fait en cachette. Et dit aux journalistes, la rencontre prébudgétaire lundi n'a plus. Oubliez ça. Finalement, revient sur sa décision le lendemain, puis la remet.
Écoute, beaucoup d'émotivité dans ce week-end, tu sais. D'abord, sur la fuite elle-même. Je pense que la fuite comme telle, elle est déplorable. T'sais, déjà qu'on a un peu de mal à tenir un niveau de confiance intéressant au conseil municipal, on sent même de l'extérieur les tiraillements. Là, la personne qui a décidé, ou en tout cas par personne interposée, de faire circuler, parce qu'on parle carrément des documents qui ont circulé auprès des journalistes avant, ça, c'est quand même déplorable. Ça nuit au climat de confiance à l'intérieur du conseil. Ça crée un climat plus de méfiance. Puis ça fait en sorte que, t'sais, nous qui en appelons à plus de transparence et à des discussions plus ouvertes, mettons que ça aide pas à créer un contexte pour faire ça.
En même temps, moi je t'amène deux points. T'as l'aspect où est-ce qu'il y a une nuance à faire entre donner un document au complet et couler de l'information? Parce que couler de l'information, on s'entend, ça se fait constamment, là. On voit ça au provincial, au fédéral, tout le temps.
Oui, je suis d'accord avec toi. Puis sur le fond,
et même sur le
fait,
budget, là, soit dit en passant, ça se fait tout le temps, là.
Sur le fond, en fait, l'article en tant que tel, d'un point de vue, parce que moi, j'aime beaucoup la stratégie politique, fait que je peux pas m'empêcher de réfléchir à ça sous cet angle-là. L'article comme tel, il y avait rien de nécessairement dommageable à l'égard du maire ou des éventuelles décisions du conseil municipal à l'égard du budget. Fait que je pense que
si ce n'est du timing, moi c'est comme ça que je l'ai senti. On a un problème, on a un problème à Sherbrooke, ok? Il y a quelque chose qui me gosse profondément là. On fait toujours nos budgets, nos dépôts de budget la dernière semaine avant Noël. Tu veux-tu mieux étouffer une nouvelle, toi? On va passer une petite hausse de taxes, pas grave, le monde a en tête d'un cadeau.
C'est ça, c'est dans le jus.
Là, l'info est sortie quand? Samedi.
Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, puis tu sais, il y a peut-être aussi toute la façon dont on le conçoit, ce budget-là, toutes ces rencontres qui se font à huis clos, il y a peu d'espace pour l'intervention de groupes sociaux, du public, de la communauté sherbrookoise dans la conception du budget. Je pense que c'est aussi un symptôme de ça. En même temps, la fuite comme telle, c'est un problème, mais le contenu de la fuite était pas, tu sais, l'article n'était pas du tout dommageable d'un point de vue politique pour Steve Lucier. Je pense qu'en fait, sa réaction est beaucoup plus dommageable pour lui.
Mm-hmm.
C'était d'annuler la rencontre, de réagir fortement et émotivement, puis d'annuler la rencontre, c'était une mauvaise décision, oui, par rapport à la transparence puis à l'information qu'on donne aux citoyens par l'entremise des médias, mais aussi d'un point de vue de stratégie politique. Il a raison d'être en maudit, mais en réagissant comme il a réagi, il empire son cas. Parce que d'une part, il se privait d'une occasion d'expliquer lui-même aux médias avec ses propres messages, de bien cadrer son message sur le budget. Ça, c'est une chose. Puis, en plus, ils créent un sideshow dont ils n'ont vraiment pas besoin. Parce que là, regarde de quoi on parle ce matin. On parle de la réaction vive du maire, du courriel aux médias, de toute cette dynamique de j'annule la rencontre, j'annule pas la rencontre. Ça a l'air un peu désordonné, tout ça. Puis ça y fait un sideshow dont il n'y aurait pas besoin, qui nous détourne des vrais enjeux du budget.
Et toi, là, qui es forte dans la stratégie, là, un politicien n'a pas besoin de se mettre des médias à dos. Là.
Non, pas du tout, pas du tout.
Ta première année d'un mandat de 4 ans, tu te mets les journalistes à dos?
C'est sûr que moi, tu sais, si j'avais été dans l'entourage du maire Lucier samedi, j'aurais dit, monsieur le maire, prenons le temps d'y réfléchir. L'article n'est pas si dommageable. Restons sur notre plan de match. Voyons les médias lundi. Assurons-nous qu'ils comprennent le budget comme on souhaite qu'ils le comprennent, comme on a voulu le faire, qu'ils comprennent bien nos priorités puis les choix qu'on fait. Puis je reviendrai aussi sur le contenu de l'article puis ce qui a coulé. T'sais. Dans le fond, on apprend des choses sur le budget, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas sur le budget encore? C'est un budget de 300 millions de dollars environ. On nous dit dans l'article que la portion coût de système, donc ce que ça prend pour juste maintenir le même niveau de service, une petite augmentation des dépenses de 11 millions, des nouvelles dépenses demandées par les différents services de l'administration de l'ordre de 7,5 millions, ça fait un total de 18 millions. De tout ça, les élus ont fait des choix. Donc, soit abandonner des projets, des priorités ou certaines augmentations de dépenses. On ne sait pas encore quel choix ils ont fait. On va l'apprendre ce soir, puis ça va nous donner une idée sur quelle vision ils veulent développer puis leurs priorités. Puis on ne sait pas non plus où ils vont trouver l'argent totalement pour combler ce manque à gagner-là qui serait là maintenant de l'ordre de 11 millions. Il y a la hausse de taxes de 3 % qui est d'une part une hausse de taxes, d'autre part une augmentation du rôle d'évaluation. on mentionne les tarifs dans l'article, mais on ne sait pas.
On n'a pas le coût.
On n'a pas le coût.
Mais quelle ça aussi, c'est un impact important. Là.
Puis ça peut avoir un impact important, absolument. Puis après ça, on dit qu'on va piger dans les surplus accumulés. Tu sais, ça a l'air un peu facile de même de dire piger dans les surplus, mais les surplus accumulés, dans les faits, c'est de l'argent qui est attribué à des dépenses qu'on prévoit faire dans les années qui suivent, pas dans l'année en cours, mais dans les années suivantes. C'est pas de l'argent de même là, qu'on
hypothèque
a attribué
futur,
à rien. Là, tu hypothèques le futur. Mais c'est quelles dépenses dans le futur qu'ils prévoient ne pas faire et qu'ils vont faire maintenant? Puis ça va être des besoins à combler dans le futur aussi. Fait que tu sais, il reste encore beaucoup de choses, beaucoup de questions à poser de la part des journalistes cet après-midi, de la part des citoyens puis des conseillers municipaux ce soir. On verra comment ça sera reçu puis aussi qu'est-ce qui pourra en dégager comme vision. Mais moi, je pense que grosso modo, le maire avait pas besoin de ce bouleversement, de ce sideshow en fin de semaine. Puis on peut se concentrer sur le fond là, pour le reste de la journée.
Il y a un rapport qui a été publié par la chaire de gestion du secteur de l'énergie du HEC Montréal, où on voit que les Québécois sont largement perçus à travers le pays, à travers le monde, comme soucieux de l'environnement, mais qu'en réalité, on consomme l'énergie au pouce carré.
Exact.
Il y a deux données qui sont intéressantes. D'abord, de un, on a quand même abaissé nos émissions de gaz à effet de serre, et là-dessus, il faut lever vraiment la main très haute, parce qu'ils sont très rares les États qui ont réussi à faire ce coup-là. Par rapport à 1990, on a réussi à réduire nos émissions globales de 11 %. Mais ce que cachent beaucoup ces données-là, c'est que nous, on boit de l'électricité hydroélectrique.
Oui, absolument, au biberon.
C'est ce qui nous sauve.
C'est ce qui nous sauve. En fait, c'est le cinquième rapport, ils en font un chaque année, l'état de l'énergie au Québec. Effectivement, sur la production énergétique, on a un super bon bulletin, tu l'as dit, on produit de l'hydroélectricité, c'est facile. Tu sais, ça, c'est les gains faciles qu'on pouvait faire. En même temps, sur la consommation, puis c'est là que le bas blesse, notre consommation en énergie, elle baisse pas. Tu sais, par rapport aux voitures, on a des voitures qui consomment moins. Mais on compense comment? En achetant plus de voitures, le parc automobile grandit, et en achetant des plus gros chars.
C'est ça.
Ils sont plus efficaces, ils consomment moins d'énergie, mais on en a plus, ou on achète des plus gros, puis on fait beaucoup d'auto-solo. Après ça, à la maison, même chose, nos maisons sont plus éco-énergétiques, la façon dont on consomme l'énergie à l'intérieur de la maison, c'est bien. On compense comment? En ayant des plus grosses maisons. Puis il y a des maisons dans lesquelles il y a moins de monde, parce qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, il y a moins d'enfants, il y a plus de personnes seules qui restent à la maison. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans comme leçon. Ce que ça nous prend, à mon avis, c'est un grand chantier pour revoir la fiscalité puis les tarifs pour orienter nos décisions, parce que visiblement, on n'est pas capable tout seul. Orientons nos décisions individuelles puis collectives pour une consommation plus responsable, tu sais, des tarifs d'électricité modulables pour qu'on diminue notre consommation ou qu'on l'étale plus adéquatement dans l'ensemble de la journée, des tarifs modulés pour nos véhicules en fonction de la taille, de l'utilisation qu'on en fait. C'est vraiment nécessaire d'avoir un VUS quand tu as juste deux enfants. Je suis sûre que tu peux t'arranger avec une deuxième voiture qui n'est pas un VUS. D'un point de vue collectif aussi, tu sais, on peut-tu lutter plus efficacement contre l'étalement urbain, augmenter la densité? On en a parlé la semaine passée avec le centre-ville. Diminuer les transports en favorisant le télétravail ou en ayant des horaires plus flexibles. Il y a plein de choses qu'on peut faire individuellement et collectivement pour améliorer ce bilan-là. Travaillons-y tous ensemble.
Et l'aspect industriel et commercial aussi, évidemment.
Moi aussi.
Merci beaucoup, Isabelle. On se reparle demain.
On se reparle demain du budget.